Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un film que nous aimons beaucoup, toi et moi, Arnaud, puisque je suis avec mon ami Arnaud Bordas. Et ce film, c'est Avif, The Brave One en anglais, de Neil Jordan, avec Jodie Foster, et c'est une production Joel Silver. Alors, un casting assez hétéroclite, n'est-ce pas ? Puisque, en fait, c'est un vigilante movie, qui ne s'excuse pas d'être un vigilante movie, c'est ça le plus hallucinant, quoi. Et bon, sur ce casting-là, Joel Silver, ça peut sembler cohérent de le voir produire un film comme ça, mais Jordan, déjà, le voir réaliser, c'est déjà un peu plus étonnant. Et alors, Jodie Foster, dans ce rôle-là, et un rôle à la Charles Bronson, c'est encore plus étonnant, je trouve. Et c'est un film qui est sorti en 2007, qui est un petit peu oublié aujourd'hui. Et on voulait un petit peu le réhabiliter, n'est-ce pas ?
Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est un film... c'est vrai que si on vend le truc sur le concept, ça peut même prêter à sourire, quoi. Tu fais un film avec Jodie Foster en Charles Bronson, quoi. C'est pas ce qui te vient à lier quand tu parles de ce genre d'univers et de vigilante movie, tout ça. C'est Jodie Foster, c'est pas le premier nom qui vient à l'esprit immédiatement. Mais c'est vrai qu'après, c'est comme tu le disais, c'est un film produit par Joel Silver. C'est un film qui était vraiment conçu autour de sa star. Hein. C'était vraiment, je crois même que Jodie Foster elle a touché son plus gros cachet pour ce film, hein. 15 millions de dollars. Ça paraît énorme.
Alors que le film a été un bide. Hein.
Oui, le film a pas bien marché, hein, clairement. Hein. Je crois que ça n'a pas dépassé la trentaine de millions de dollars de recettes aux États-Unis. Donc voilà, quand je viens de citer le cachet de Jodie Foster, on se fait à peu près une idée. Oui, à la base, c'était un film qui était basé sur ce concept-là. On va faire un vigilante movie au féminin, quoi. Et donc, comme Jodie Foster, qui était à l'époque une des plus grosses actrices, son nom s'est imposé rapidement, bien que je crois qu'ils ont considéré plus d'autres actrices avant. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qui peut paraître étonnant sur un projet pareil, c'est parce que Joel Silver, ça l'est nettement moins.
Hein, bien sûr.
Mais c'est clairement Neil Jordan. Bien qu'après, Neil Jordan, c'est un réalisateur atypique, hein, réalisateur. Anglais, enfin irlandais même, et qui a touché un peu à tous les genres. Hein.
Complètement, il a fait du fantastique avec Entretien avec un vampire, mais ça c'est un de ses films les plus connus. Mm. Il a fait des drames, hein, qu'il a tourné en Irlande justement, The Butcher Boy, ce genre de choses.
Mais alors, Crying Game, hein,
The Crying Game, cinéma, voilà aussi quoi. Donc en fait il fait un peu de tout quoi. Il touche à tout, c'est vrai.
Ouais. D'ailleurs même juste après ça, il a bon, je pense que c'était dicté un petit peu par l'échec de The Brave One, mais qui était quand même un gros film hollywoodien, tu vois. Pour lui, en tout cas, il a enchaîné avec un tout petit film tourné chez lui en Irlande avec Colin Farrell, là, Ondine, là, qui était un film de sirène naturaliste. C'est vraiment un tout petit film, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui a une versatilité comme ça. Et puis, il le dit dans les entretiens, hein, qui ne se cache pas d'aimer le genre. C'est vrai que le côté vigilante movie du film est totalement assumé et revendiqué jusque dans ses interviews, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas. Moi, je me rappelle d'un film que j'aime beaucoup de Jacques Audiard, qui est Dipan, qui avait eu la Palme d'Or à Cannes. C'est un vigilante movie. Bon, à la Audiard, hein, chaque mot compte, quoi. Mais c'est un vigilante movie et qui va jusqu'au bout de ça, qui ne s'en excuse pas, le film. Mais par contre, Audiard, en interview, disait « Oh, moi, les vigilante movie, je trouve que c'est des trucs un peu d'abrutis. » Donc, voilà. Neil Jordan, lui, il a quand même une aura un petit peu de réalisateur-auteur aussi, quoi, tu vois. Mais... Il avait aucun problème à traiter ça, quoi, et ça se voit d'ailleurs dans le film. Alors, je sais pas, on va en parler, on va peut-être
pitcher
spoiler,
un peu le film vite fait. Ouais. Enfin, de toute façon, on va spoiler. Les gens savent que quand on enregistre un podcast, quand c'est nous, En général, on spoil, hein, donc il vaut mieux avoir vu le film. Voilà.
Mais ouais, bon. Et puis le film date maintenant de 2007. Donc,
et il est facilement trouvable. Hein,
il y a un Blu-ray français. Ouais, voilà. Malgré que le film n'ait pas super bien marché, on peut arriver à le trouver. Donc, le pitch, c'est tout simple.
Vas-y, pitch le film, Arnaud. Simple, 3 minutes 30.
Mais ça va aller vite, Stéphane, ouais. Tu vas voir. Efficacité. Alors, Erika Bain, qui est une animatrice de radio new-yorkaise, c'est un film qui se passe à New York, hein, vraiment, et qui c'est comme Death Wish, d'ailleurs, comme Injustice en ville. C'est quand même un élément important du film. Et c'est une animatrice donc de radio new-yorkaise, un petit peu un télo, qui se balade dans la ville, qui enregistre des sons et qui les diffuse dans son émission, tout ça, qui essaie de donner une sorte de portrait en coupe de sa ville, comme ça. Et un jour, en se baladant dans Central Park avec son amoureux, ils sont accostés par des voyous. Et le gars, lui, va y laisser la vie, quoi. Ils sont tabassés tous les deux. La scène est assez violente. Hein.
C'est filmé.
Ouais, c'est filmé, effectivement, l'agression. Et donc, après ça, Jodie Foster, elle sort du coma. Elle a une, comment on appelle ça là, un trouble...
Post-traumatique.
Post-traumatique, voilà, merci. Elle va digérer ça peu à peu, mais en même temps va naître chez elle l'envie de faire payer les gens qui ont fait ça, et puis de manière générale,
c'est beaucoup plus
comme un vigilant d'assainir un petit peu les rues de sa ville, quoi, même si elle le formule pas comme ça. Quoi.
Moi, je trouve que c'est un peu plus fin que ça, justement, en fait, parce que d'abord, en fait, elle a besoin d'une arme pour se défendre parce qu'elle a peur, et ensuite elle rentre dans ce système là.
Je voulais pas trop détailler le pitch quand même.
C'est pas une question de détailler le pitch, c'est en fait ce qui est intéressant là dedans, c'est justement que avec ce trio d'acteurs de players autour du film, en fait on a le meilleur des trois mondes, on va dire. En fait on a un vrai portrait en creux de personnage, on a un réalisateur qui fait un vrai drame. Et en même temps, un producteur qui dit oui, mais on fait aussi un film de vigilante. Donc en fait, les trois films, il y a plus ou moins trois films en un, et c'est ce qui fait, moi, je pense, la grosse qualité du film et ce qui vend finalement. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que dans l'absolu, ça pouvait paraître saugrenu, en fait, d'avoir Jodie Foster dans un rôle comme ça, parce que elle peut avoir une aura de.
Madame... Non, mais j'ai pas dit que c'était saugrenu. J'ai dit ça, quand tu résumes le truc qu'ont dû faire des producteurs, tu vois, quoi, je pense. Quand le projet était en discussion, c'est-à-dire Jodie Foster en Charles Bronson, ça peut prêter à sourire, je dis, tu vois, c'est ça.
Pas après Le Silence des Agneaux, je pense déjà. C'est-à-dire que en gros, elle a quand même démontré qu'elle pouvait avoir des rôles de femme forte. Et surtout, il y a un autre truc, c'est que un personnage comme celui-là, pour traiter ce malaise sociétal, en fait, cette problématique de comment dire, pour utiliser les termes de politicien, d'insécurité, ce genre de choses, en gros, c'est bien de prendre quelqu'un qui peut renvoyé à une madame tout le monde, en fait. Et du coup, c'est aussi l'un des gros atouts, je trouve, du film, même si, bon, Jodie Foster, c'est une star et on la connaît.
Et puis, c'est-à-dire, c'est en général, dans l'histoire des genres au cinéma, les genres progressent, produisent des films intéressants, justement, quand il y a un travail sur les codes de genre, avec des innovations, avec des décalages, des choses comme ça. Donc, effectivement, se dire on va faire un justicier dans la ville, mais on va le faire du point de vue d'une journaliste intello new-yorkaise, tu vois, une femme, tout ça, ça peut être intéressant, pour peu, évidemment, qu'il y ait des gens motivés, talentueux à la tête du projet, mais ça peut être intéressant de créer une sorte de films de genre un peu différent, quoi, tout simplement, et un peu frais, un peu novateur. Et là, c'est le cas, quoi, parce que c'est vrai. Tu parlais du Silence des Agneaux. C'est vrai que ce qui est assez payant, je trouve, dans le film, c'est la manière dont le film joue aussi avec l'image de Jodie Foster, parce qu'il y a une scène dedans, par exemple, où les policiers la mettent devant un miroir sans teint.
Ouais.
Pour regarder des suspects de son agression. Et il y a d'ailleurs le meurtrier qui est dans les suspects. Et cette scène, elle est super parce qu'en fait, il joue beaucoup sur les miroirs, justement. Neil Jordan, dans le film, sur les reflets, tout ça. Mais quand elle arrive, je ne sais pas si tu te souviens, dans la salle, elle a le miroir sans teint en face d'elle. Donc on voit les mecs au fond, derrière la vitre, alignés, les suspects. Et dans le reflet de la vitre, Il y a tous les flics, il y a 4 ou 5 flics qui sont derrière elle, assez grands, baraqués, qui l'encadrent. Et elle, elle est toute seule comme ça, un troupeau de mecs devant elle, un troupeau de mecs derrière elle. Et en fait, ça fait penser à cette scène de l'ascenseur au début du Seigneur des Anneaux.
Oui, du silence.
Du silence des agneaux, pardon. Où elle se retrouve comme ça, où Jonathan Demme la filme, vraiment, elle vient de faire son jogging, elle rentre dans l'ascenseur et puis il y a les ouais, 5 mecs autour d'elle qui la cernent. Et voilà, c'est une manière aussi de il n'hésite pas à le montrer, ça, la fragilité du personnage, mais en même temps, en jouant avec l'image de Jodie Foster qu'on connaît, notamment celle du Silence des Agneaux, il prépare la réaction et le sursaut de puissance du personnage. Quoi.
Et puis j'allais dire, en fait, après, il y a des films qui sont moins... Alors, ça paraît peut-être moins évident parce qu'on ne pense pas automatiquement à elle, même si elle est présente dans le film, et c'est un enjeu. Hein. Mais là, en fait, dans sa carrière, elle a quand même quelques films en fait, qui se rattachent aux sujets, aux thématiques qui sont...
On pense à Taxi Driver.
Hein. Taxi Driver, dont elle est l'enjeu, hein, littéral.
T'as même une scène où elle va sauver une pute en étant, elle, le vigilante, donc. Ouais. Et c'est... Enfin, elle prend la place de De Niro et la nana voilà, prend sa place
Et ensuite, t'as aussi, par exemple, un film comme Les Accusés, quoi, où elle est victime de viol. Et,
tout à fait. Ouais.
Voilà, donc en fait, il y a quand même des choses, je pense que c'est des thématiques qui l'intéressent et qui, du coup, elle s'investit aussi quand elle fait ce film-là, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste un gros film de studio avec un high concept, on va dire, c'est, attention, c'est Death Wish, mais version féminine, quoi. Et je pense que ça fait partie... Mais je pense que ça fait partie aussi des problématiques du film, c'est que c'est un film qui a été, à l'époque, distribué comme un drame. Ce qui fait que je pense que les fans de Vigilante Movie ne sont pas forcément allés le voir, on va dire. Et en même temps, en fait, c'est un film qui encore une fois, propose le tout. Quoi. C'est ça qui est intéressant. Il y a notamment dans le film, il y a une scène, en revoyant le film aujourd'hui, c'est d'autant plus flagrant, en fait, parce que ça a été refait et re-refait. C'est qu'ils reprennent la scène du métro dans le premier Death Wish. Ils
mettent des voyous accostent voilà. Jodie Foster de même qu'ils accostaient.
Voilà, exactement. Et en gros, cette scène, elle a été reprise depuis dans Joker. Et voilà. Et en fait, elle est tellement mieux dans À Vif, quoi.
C'est-à-dire, ça fait partie des, justement, de l'intelligence de Neil Jordan, c'est-à-dire de ne pas prendre de haut le genre qu'il investit et d'utiliser la mémoire qu'en ont le souvenir qu'en ont les spectateurs pour raconter son histoire. Il y a quelques petits autres trucs comme ça. Il y a une scène aussi où, comme Bronson dans le premier film, elle rentre chez elle et elle vomit quoi après avoir tiré sur des mecs. Moi, je suis pas sûr de ça, mais comme c'est tourné un peu dans les mêmes lieux, il y a un moment, un plan. Il faudrait se renseigner, mais il y a un plan où elle est dans Central Park. Elle a commencé sa croisade là, hein, et elle arrive devant un escalier. Elle s'arrête. Et elle repart en arrière. Et on ne sait pas trop pourquoi. Quoi. Et cet escalier semble être l'escalier qu'il y a dans Central Park, là où, dans Death Wish, où Bronson tue un ou deux marlous, là, à un moment dans le film. Là, et ça avait servi même d'affiche, hein, cette scène. Donc je me demande si ce n'est pas carrément un clin d'œil avoué. Quoi, tu vois. Mais en tout cas, il y a clairement ça dans le film. Le film dialogue. Avec ses prédécesseurs et notamment avec son prédécesseur le plus emblématique du genre, quoi. Et il utilise ça dans sa narration. Quoi. Après, il y a un truc, Stéphane, parce qu'on n'avait pas du coup, on n'avait pas fini le pitch, qu'il faut dire quand même, parce que c'est un élément très important de l'intrigue, c'est que elle va commencer ce que j'appelais sa croisade là, en butant les marlous là, qui gangrènent la ville de New York. Mais en même temps, il y a un flic, comme dans tout bon vigilante, hein, dans Justicier dans la ville, c'était le commissaire joué par Vincent Gardenia. Là, c'est Terrence Howard qui joue le flic qui enquête là-dessus et qui est un type assez brillant, hein, le personnage qui connecte les choses et qui remonte peu à peu jusqu'à Jodie Foster. Et donc, on a les deux choses en parallèle où ils se tournent autour. Parce que par exemple, dans Justicier dans la ville, Vincent Gardenia, bon, c'était le rôle du flic un peu chafouin, là, mais perspicace, tu vois, un peu à la Columbo, là, un peu revêche, mais intelligent quand même. Bon, c'était un peu un cliché. Mais là, il y a une relation, une vraie relation qui se développe entre le personnage de Terrence Howard et celui de Jodie Foster, et qui est vraiment superbement traité, quoi. Voilà. Alors, pour reparler encore d'un plan avec un miroir, il y a une scène dans le film qui est une des plus belles scènes du film, moi, je trouve, où en fait, c'est vers la fin du film, et Terrence Howard a compris que c'est elle, la justicière dont parlent les médias, qui est en train d'ensanglanter les rues de la ville. Elle a compris qu'il a compris, mais personne ne dit exactement les choses comme elles sont, quoi. Et ils sont à un comptoir de bar, et Neil Jordan filme toute la scène de face, avec Terrence Howard à gauche et Jodie Foster à droite. Donc on les voit de face, et ils se parlent, en fait, sans jamais se regarder. Et donc, il y a ce jeu, justement, où ils ne se disent pas la vérité, mais tout en sachant que chacun sait, voilà. Et à la fin de la scène, quand tout est dit, là, il y a un plan, un contre-champ. Il y a un miroir en face de derrière le bar. Et on voit qu'en fait, ils se regardaient eux-mêmes pendant toute la scène. Donc, on avait l'impression qu'ils ne se comprenaient pas, qu'ils ne se regardaient pas. Et là, on voit qu'ils se sont regardés chacun l'un l'autre pendant toute la scène. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la relation entre ces deux personnages. Elle est, c'est pas juste une fonction de flic qui enquête, Terrence Howard. Il y a même peut-être quelque chose de l'ordre de l'amour platonique entre les personnages qui finissent par naître. Oui,
complètement. Mais ça, ils le disent. Hein. Enfin, en tout cas, une amitié très forte en très peu de temps. Quoi. Mais il y a aussi, un élément. Alors là, on rentre vraiment dans le spoiler, en fait, sur le final du film. Moi, je sais que j'avais été assez emporté parce que tu parles d'éléments de mise en scène, mais il y a un truc, en fait, qui est très très fort. Pour moi, ce qui est très important dans le Vigilant Movie, c'est aussi la façon dont tu vas montrer la ville dans laquelle, en fait, les événements se situent, parce que c'est un malaise, en fait, qui frappe un personnage qui ne s'y attend pas, en fait. Alors qu'en fait, il vit dans cet environnement violent, il vit dans cet environnement, voilà. Et c'est une manière.
Dans une bulle.
Hein, oui, dans une bulle, mais c'est une manière de dire ça peut frapper n'importe qui, en fait, dans notre société. C'est ça qui est hyper important. Et du coup, pour faire ressortir ça, l'idée, en fait, je trouve, c'est toujours d'utiliser les lieux et vraiment de les inscrire dans ton récit, la façon dont tu racontes ça. Neil Jordan, il le fait extrêmement bien, je trouve, dans sa façon de filmer New York, dans sa façon de mettre en scène Jodie Foster dans les rues, etc., etc. Et t'as le plan final, enfin, un des plans finaux où elle est dans les ruelles, elle remonte toute la ruelle qu'elle a, voilà, elle repart.
Le plan aérien.
Le plan aérien où il l'inscrit totalement là-dedans et elle s'enfuit. Moi, je me rappelle,
t'as
je m'étais dit.
Une chanson par-dessus et elle.
Bon, ça, c'est pas le meilleur truc du film, je trouve.
Non, mais en fait, le feeling que ça donne au truc, c'est. À la scène avec ce plan aérien où elle est d'abord elle va dans une artère et puis elle rebrousse chemin, elle va dans une autre, et la façon dont la position du corps de Jodie Foster, elle est les mains comme ça écartées, on a l'impression qu'elle est paumée, qu'elle se cherche, quoi. Et c'est ça le personnage, et elle finit par trouver la sortie, quoi, tu vois, quoi, c'est la fin de la
et avant cette scène il y a ce truc, en fait, qui pour beaucoup a été un revirement un peu étrange, qui est en fait que il la soutient, en fait, dans sa quête de vengeance, en fait.
Alors, je pense qu'il la soutient pas littéralement, quoi, dans sa quête de vengeance, mais il s'est clairement attaché au personnage. Il y a pour le moins une amitié, comme tu disais, qui est née entre eux. Et je pense que ça part de là, quoi.
Parce que t'as ce moment, en fait, où elle l'interview. En fait, il y a un autre jeu que je trouve très intéressant dans le personnage de Jodie Foster, que je trouve assez bien écrit, assez complexe, en fait, c'est que elle cherche à se faire attraper de tout le film, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment
Carrément chez les flics à un moment pour dénoncer, puis
elle n'y arrive pas, quoi. Ouais. Elle aborde le truc, quoi. Et en fait, elle cherche à se faire attraper, et notamment elle court derrière le flic qu'elle sait qui potentiellement ce flic peut l'arrêter, quoi. Donc c'est lui, c'est Terrence Howard. Et en fait, en gros, t'as ce moment où elle lui demande une interview. Il finit par accepter, et il y a ce passage très bref où, en gros, il fourche, en fait. Il dit, voilà, je peux pas, si je pouvais, je dépasserais la loi, en gros, quoi. C'est-à-dire que et en gros, il lui demande de couper ce passage. Et je pense qu'eux, ils justifient ça, ce petit truc, en fait, ce moment où le mec, il est au bord du précipice et qu'il est prêt à sauter le pas et à laisser la loi derrière lui pour s'occuper des mecs qui traquent, quoi. Je pense que c'est comme ça qu'il justifie le coup de main final, on va dire, si tu veux, quoi. Et bon, moi, ça me dérange moins. C'est-à-dire, je trouve que c'est englobé dans le film, mais c'est vrai que je trouve pas que ce soit aussi bien le personnage. Je le trouve pas aussi bien défini, on va dire, que celui de Jodie Foster, quoi, qui pour le coup est plus complexe à écrire et plus.
Le final, c'est pas juste un coup de main. Hein. C'est carrément, il se substitue à elle, quoi.
Bah oui, mais c'est ce que vraiment, je dis, tu vois. Donc le truc, c'est que c'est moins bien amené, je trouve, en fait, que encore une fois. Alors, on suit beaucoup moins ce personnage, hein, honnêtement, que celui de Jodie Foster, quoi. Mais voilà. Et il y a un autre truc que j'aime bien aussi. Parce qu'on a tendance à... En fait, le problème du Vigilante Movie, c'est que souvent, à part 2-3 grands classiques, en gros, on a tendance à comparer ça aux films de Bronson dans les années 80, pour le coup. C'est-à-dire vraiment les canons, les trucs comme ça, et tous les trucs qui s'en sont suivis, quoi. Et en fait... ça va, Arnaud?
Oui, oui. Petite
toux.
Rien de grave, ne vous inquiétez pas.
Tu veux un petit cachou? Non, bon. On a tendance à considérer que le vigilante movie, c'est un truc de gros veau, quoi. Tu vois, tu parlais d'Audiard tout à l'heure qui
considère ça avec des pincettes.
Voilà, c'est ça. Alors qu'en gros, il y a moyen de vraiment sonder l'âme humaine avec ce genre-là, qui est effectivement un genre d'exploitation. Hein, voilà. Et le film le fait, moi, je trouve assez admirablement bien. Et je sais plus ce que je voulais dire, putain.
J'ai... Non, bah, c'est-à-dire, il y a moyen de faire des drames avec ça et de, enfin, je veux dire, Scorsese l'a fait avec, avec Taxi Driver, toi, c'était parce que c'est quand même aussi un film de vigilante.
C'est totalement un film de vigilante, mais alors justement, le truc, c'est que c'est pas du tout perçu comme tel.
Bah, c'est vraiment avec la sensibilité des auteurs, toi, c'est-à-dire de Scorsese et de Paul Schrader, quoi, le scénariste. Mais c'en est un. On peut pas dire le contraire, tu vois. Mais moi, je parlais de Dipane tout à l'heure, c'est pour ça que c'est clairement avec sa sensibilité. Puis avant le final, il y a quand même de longs passages à la Audiard, très social, et qui paye, hein, dans le film, je trouve, d'observation du milieu social, tout ça. Mais les 20 dernières minutes, c'est du vigilante movie. Autant à l'oral, enfin, dans les médias, ils se pincent un peu le nez, autant je trouve que dans le film, il y va.
Oui,
quoi,
oui, voilà, oui. Donc. Et après, je pense que lui, il suit son récit aussi, quoi. Mais en fait, le truc, c'est justement, c'est ce que j'allais dire sur The Brave One, sur Avif, ce qui est très intéressant, c'est qu'en montrant, en fait, que le personnage de Jodie Foster passe à l'action, y compris dans des situations qui ne sont pas censées la concerner, hein, pour le coup, tu vois, si tu veux. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans Le Vigilante, c'est quand c'est pas un film de vengeance pure et dure. C'est-à-dire qu'en gros, on ne traque pas uniquement les personnes qui ont commis le crime initial, quoi, qui a lancé le récit, mais en fait, on va vraiment chercher ceux qui gangrènent la société, quoi. Mmh. Et t'as une scène, justement, où elle voit un chauffeur de voiture, alors comme ça, qui a une prostituée derrière sa voiture. Et les actions de Jodie Foster créent aussi. C'est-à-dire, elle sauve la nana, mais en fait, ses actions créent une situation qui l'immobilise et qui manque de la tuer aussi, quoi. Mmh. Et ça, c'est un des trucs que j'ai bien aimé aussi. C'est-à-dire que c'est l'idée que tu peux pas impunément, en fait, prendre ton flingue, descendre dans la rue, buter quelqu'un ou essayer de buter quelqu'un, et en fait, sans qu'il y ait des conséquences, y compris pour les gens que t'essayes de sauver, quoi. Mmh. Et ça, je trouve ça hyper bien amené aussi dans le récit, quoi. C'est-à-dire que ça traite toutes ces facettes, en fait, je trouve. C'est ça qui est intéressant. Et c'est d'autant plus dommage, justement, que le film ne soit pas plus apprécié pour ces valeurs-là, quoi.
Ouais, et puis, mais ça, c'est l'intelligence narrative de Neil Jordan aussi. Mais tu parlais de cette prostituée, il y a une très belle scène aussi à l'hôpital où, en fait, elle est convalescente, là, après la fusillade qu'il y a eu, quoi. Et Terrence Howard, qui soupçonne déjà Jodie Foster d'être la justicière, doit aller la voir à l'hôpital, la prostituée, pour la questionner. Mmh. Et il emmène Jodie Foster avec elle, comme elle essaie de l'interviewer. Il lui dit, bah, venez avec moi. Mmh. Et en fait, dans cette scène, il y a un jeu de regard entre lui, ce qu'il espère, Terrence Howard, c'est que la prostituée va reconnaître Jodie Foster et dire c'est elle. Mmh. Et la prostituée regarde Jodie Foster et ne dit strictement rien.
Mais elle la reconnaît.
Mmh. Donc il y a souvent des jeux comme ça dans le film de non-dit, où le spectateur est impliqué. Parce que.
C'est une prostituée. C'est pas tout à fait une prostituée. Hein. C'est fait droguer pour. C'est-à-dire, le mec l'a mis là. Hein, tu vois.
Je crois que c'est une prostituée. Hein.
Non, je crois qu'il a vraiment pris une jeune, en fait. Il l'a droguée, puis il lui fait faire des passes, quoi. Mais c'est.
Ouais, bon. Bah,
c'est pas un choix.
Oui, oui.
Ça part à elle.
Oui,
c'est ça que je veux dire.
Ouais, ok. Mais. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est vrai que c'est la gradation des actes du personnage. C'est-à-dire, le premier meurtre, par exemple, c'est dans une épicerie où, en fait, il y a un type qui rentre, qui bute l'épicière. Et elle se cache d'abord, quoi. C'est-à-dire elle a peur, quoi. Mmh. Elle a le flingue sur elle, mais elle se cache, quoi. Et en fait, quand elle commence à être menacée, que le gars remonte les rayonnages de l'épicerie, là, elle finit par le tirer. En plus, à travers un rayon, tu vois, elle écarte les boîtes, elle le tire comme ça, quoi. Après, ça va aller, tu vois, quand on voit la scène du métro, par exemple, elle y va, elle sort le flingue et boum, elle le bute à bout portant, quoi. T'as. Et puis là.
Ah, ben là, elle le cherche même.
Ouais.
Elle le cherche pas, mais en tout cas, elle l'attend.
Voilà. Elle est prête, quoi. Et après, la prostituée, là, mais avec la prostituée, c'est carrément, il y a un stratagème, tu vois, elle monte dans la voiture pour provoquer la prostituée, donc il n'en est pas vraiment une, comme tu disais, mais pour provoquer le gars qui l'a prise dans sa bagnole, tu vois. Elle est en mission, là, souvent, là, quoi. Donc, il y a une manière de montrer l'accession du personnage à la violence, quoi, qui est bien pensée, quoi, qui est montrée.
Qui est bien pensée, puis qui, en fait, je pense, encore une fois, est possible. à partir du moment où tu as une actrice comme Jodie Foster dans le rôle qui va travailler, c'est pas par son, comment dire, uniquement par son talent, hein, mais aussi par sa volonté de d'affiner en fait le récit à travers psychologique, en fait, c'est psychologie du récit, quoi.
C'est vraiment, alors, vu le cachet qu'elle a touché, hein, elle avait le projet était sur ses épaules vraiment, quoi, tu vois, ils l'ont vendu là-dessus. Elle pouvait prétendre avoir son avis, hein, quand même sur le film. Par exemple, c'est elle qui, à la base, dans le scénario, c'était une. Je sais plus quels sont les scénaristes, hein, mais je crois que c'est des scénaristes de série B ou de série télé à la base. Quoi.
Mais ça, j'ai envie de dire que, en fait, c'est une des éventuelles problématiques du film. C'est-à-dire que, en gros, quand tu regardes le film en tant que tel.
Oui, Roderick Taylor et Bruce A. Taylor, c'est un fils et son père, ouais. Et qui ont tous les deux travaillé dans le domaine de la série télé commerciale dans les années 80, 90.
C'est-à-dire qu'il y a des petits trucs de récit, c'est-à-dire qu'il y a des petits trucs de verrouillage de scène. Où, par exemple, le personnage de Terrence Howard comprend que Jodie Foster l'appelle avec un téléphone portable et qu'il entend le bip d'un ascenseur et il comprend que c'est le même bip d'ascenseur. C'est un peu téléphoné, tu vois. Mais c'est, en plus, c'est des trucs où tu te dis, c'est des verrouillages, on n'en a pas besoin, on s'en fout. Mmh. Parce qu'on sait que le personnage a déjà compris à ce moment-là, quoi. Mmh. Mais tu sens qu'ils les ont gardés au cas où, comment dire, c'est des petits tropes de genre,
en fait. À ce moment-là, Terrence Howard, il n'a pas encore...
Je pense que si.
Le truc de l'ascenseur, je pense, enfin, il va aller sur place et comprendre du coup le truc, et c'est ça qui le fait vraiment démarrer sur Jodie Foster.
Mais surtout, le truc, si tu veux, c'est que ce que j'allais dire par rapport à tout ça, c'est que t'as ce truc où, je pense, elle l'affine, tu vois, la psychologie du récit, de son personnage, et c'est ce qui permet aussi, je pense, de faire en sorte que ces scènes-là, elles ressortent de mieux, tu vois. C'est-à-dire que quand tu fais une référence à la scène du métro dans Death Wish, le personnage, par exemple, de Bronson, il est extrêmement monolithique de tout le récit, en fait. C'est-à-dire que il devient littéralement c'est le jeu général de Bronson, hein, de manière générale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le film joue très très bien avec ça, parce que c'est quelqu'un, en fait, qui s'est enfermé dans sa quête. Et là, l'idée, en fait, si tu veux, c'est que ce que je trouve hyper bien fait dans The Brave One, c'est que, justement, t'as une avancée vis-à-vis du personnage, mais aussi, il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire que, pour prendre, en fait, des films qui refont... Par exemple, il y a eu un remake de Death Wish officiel, hein, avec Bruce Willis, qui est sorti il y a 2-3 ans, qui est une merde sans nom, hein, et qui pose, en fait, c'est-à-dire, bon, déjà, ils font un peu n'importe quoi, c'est-à-dire que les mecs, ils disent, bon, bah, alors, Bruce Willis, il tue un mec en lui faisant tomber une bagnole sur la gueule, en lui faisant tomber une boule de bowling sur la gueule, des conneries comme ça, quoi, ça devient n'importe quoi, donc t'es plus dans Death Wish 2, 3, 4, 5, tu vois.
Non, puis la boule de bowling, totalement par hasard, là.
Voilà,
c'est toi qui m'avais dit, y a-t-il un flic pour sauver le président, là.
Mais c'est ça, et en fait, et l'autre truc, c'est que, par exemple, Joker, pour prendre la scène de Joker, c'est un truc où le personnage de Joker, enfin en tout cas de comment il s'appelle,
Joaquin Phoenix,
voilà, trébuche et fait pas exprès, en fait, si tu veux, de tirer des balles dans la tête des mecs.
Mais il fait rien exprès dans ce,
voilà, film. C'est ça. Et le truc, c'est que du coup, c'est, en fait, on justifie ce genre d'acte, si tu veux, ce qui fait qu'on annule en gros ce qu'on veut dire dans notre propre film. En fait, c'est ça le problème. C'est pas ce que fait The Brave One, justement. C'est ça qui est très intéressant. Et à cette époque-là, il y avait un autre film de Vigilante, moi, que je déteste. Je crois que t'avais bien aimé, toi, à l'époque.
Alors attends, parce que qui
avait exactement ce même type de, et qui, pour le coup, a été mieux vu, en tout cas par les fans de Vigilante, tu vois. Qui était le film de James Wan. Là,
ah oui, Death Sentence.
Death Sentence, ouais. C'est Vengeance Aveugle. Bon, comment c'est en français, ça ? Vengeance Aveugle, non, c'est pas un truc comme ça ?
Je sais plus.
Enfin, Death Sentence.
Bon, c'était un film d'exploitation, qui avait des problèmes. Hein,
oui, des gros problèmes, mais c'est surtout qu'encore une fois, c'était un mec qui trébuche pour tuer les types, quoi. Tu vois, il vient les provoquer, puis il se casse la gueule, et en fait, le coup de feu part, quoi, tu vois.
Il y avait des scènes où il y allait au gros fusil, là, et tout, quand même.
Ouais, dans les 10 dernières minutes. Ok, le reste du film, c'est Pierre Richard, le mec. Donc le truc, ouais, si tu veux, c'est que bon, enfin voilà. C'est...
Mais bon, parce que à la base, j'étais en train de dire, donc, vous me coupâtes, mon cher Stéphane.
Je te dis plus rien.
Non, mais j'étais en
train de dire, jusqu'à la fin du podcast.
Par rapport à Jodie Foster, donc elle avait fait un petit peu réécrire le scénario, justement, et parce qu'à la base, son personnage était un personnage de journaliste de presse papier. Et c'est elle qui a insisté, et je trouve que c'est une assez bonne idée, quoi, pour en faire une animatrice radio. C'est quelqu'un qui est littéralement à l'écoute de sa ville et que sa ville écoute, quoi, tu vois. Je veux dire, le premier plan du film, c'est un micro qui se balance sur une bouche d'égout à Times Square, quoi, tu vois, qui tient comme ça pour enregistrer les bruits de la ville. Et justement, elle expliquait que ça donnait une interaction avec la ville. que n'avait pas forcément un journaliste en train de taper sur sa machine à écrire dans son bureau, quoi. Et donc, non, Jodie Foster, elle a clairement... on aurait pu penser aussi qu'elle pouvait encaisser le gros chèque, tu vois, et se dire, je vais faire ça parce que ça va peut-être plaire, là, ça va peut-être marcher, tu vois. Mais non, c'est de même que Neil Jordan.
Elle n'a pas ce genre de fonctionnement.
Non, elle n'a pas ce genre de fonctionnement, Jodie Foster. Elle est toujours, en général, quand elle choisit un film, c'est qu'elle a des bonnes raisons, quoi. Et donc, elle s'est vraiment...
Comme Maverick.
Voilà. après, c'est son amitié avec Mel Gibson. Ça peut être une bonne raison, hein, quel que soit le résultat du film.
C'est une blague, mais c'est malhonnête de ma part. C'est quand même une actrice qui a beaucoup de films de qualité dans sa carrière.
Aller jouer la méchante dans un film comme Elysium, tu vois, c'est pas toutes les stars qui auraient fait ça, tu vois. C'est une fille qui prend des risques à chaque fois, qui essaie d'aller vers la qualité. Et donc voilà, moi, je trouve ça assez louable de sa part aussi de s'être investie à ce point-là dans ce film. Pour essayer de faire aller les choses au mieux, tout en étant dans un pur film de genre, quoi, qui ne s'excuse pas d'en être un, comme on l'a dit, quoi.
Donc on recommande.
Ah, on recommande totalement. Un film qui...
5 étoiles, Arnaud. Non, parce que...
Allez, 6.
À chaque fois que tu termines une review, t'as l'impression que les mecs, ils vont aller... Non, mais pas nos auditeurs, évidemment. Hein.
Non, pas nos hommes.
Et encore moins nos tipeurs.
Certainement pas.
À qui on doit ta présence ici.
Voilà.
Mais c'est vrai que souvent, quand tu fais une review, tu te dis, il faut quand même préciser qu'en fait, on a bien aimé. Malgré le fait qu'on a passé une demi-heure à en parler.
C'est clairement un film... qui n'a pas eu non seulement la carrière, mais après la postérité. Il y a des films comme ça, des très bons films, qui sortent dans l'indifférence, qui n'existent plus après et qui sombrent dans l'oubli. Donc ça, c'est pas mal justement de t'entendre de dire « Eh, il existe ce film ».
Celui-là, il existe, il est bon. Et surtout, moi je pense que le problème, c'est fondamentalement que c'est trop un drame pour être un Vigilante Movie et que c'est trop un Vigilante Movie pour être un drame. Donc du coup, pour moi, le film est cohérent. Non, c'est équilibré. Ça, je dis pas le contraire, mais je parle de market. Perception.
L'affiche française, c'était une affiche dégueulasse, jaunâtre, là, qui avait le visuel du Blu-ray, hein, d'ailleurs, où c'est Jodie Foster.
Enfin, le Blu-ray américain, parce que moi, c'est celui que j'ai, il est pire. Hein.
C'est
Jodie Foster en Photoshop avec un flingue. T'as l'impression qu'il lui a rajouté un flingue, mais ça doit être le flingue de quelqu'un d'autre.
Ah oui, mais je vois l'affiche. Alors là, c'est un truc un peu comme ils ont refait les jaquettes des Dirty Harry. Là.
Venez voir notre film, il y a des guns.
Mais là, l'affiche française, je me rappelle ce truc avec un filtre jaunâtre où elle est debout, elle tient le flingue dans sa main, mais il est en bas de l'affiche. Je crois qu'il est coupé, on le voit à peine, quoi. Et elle a l'autre main dans ses cheveux comme ça, genre qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Enfin voilà, c'était peut-être pas la meilleure manière de vendre le film, mais. Mais bon, c'est aussi l'époque dans laquelle il a sorti. Hein.
Pour la petite anecdote, en 2007, quoi. Mais pour la petite anecdote,
c'est la fin d'une époque. Hein, cette époque
clairement, parce que c'est quand même censé être des films du milieu, c'est-à-dire des films qui se tiennent, qui sont budgétés autour d'une star avec un gros cachet pour la star, mais finalement le film ne coûte pas si cher que ça. Celui-là, je pense qu'il a dû coûter 40-50 millions quand même. Tu vois, c'est beaucoup. Mais en fait, ça reste un film du milieu pour un studio comme Warner, qui à l'époque avait de très gros projets, quoi. Et à l'époque, il sortait Dark Knight l'année d'après, avec des films à 200 patates. Mais surtout, la grosse anecdote, c'est que ce film-là, et notamment, je crois, juste après, il y avait un remake de Body Snatchers avec comment elle s'appelle, Nicole
Daniel
Kidman.
Craig et Nicole Kidman.
Surtout Nicole Kidman, en l'occurrence, c'était ça la problématique, qui se sont viandés chez Warner, et en fait, le patron de Warner à l'époque aurait fait passer un mémo complètement absurde en disant plus de films avec des femmes en tête d'affiche, quoi. Et ça avait créé un petit scandale sur internet parce que ça avait été dévoilé, je crois, par Deadline Hollywood, qui est un blog assez connu là-bas et assez suivi, quoi, à Hollywood. Et a raison, parce que c'est complètement débile, quoi.
Les décisions de cadre exécutif là qu'on complètement irraisonné, c'est tout le temps ça, toi, quoi.
Oui, c'est tout le temps, mais c'est marrant, en fait, si tu veux, que ça tombe sur un film comme ça, qui est pour le coup un film de qualité, quoi. Donc on recommande.
On recommande, chaudement. Voilà.
Merci Arnaud.
De rien, merci Stéphane.
Merci aux tipeurs. Merci aux auditeurs, merci aux tipeurs qui ont permis ta présence ici. On peut se toucher la main, on peut enregistrer le podcast en se touchant la main comme des...
Nous touchons la main, nous serrons la main. Vois,
parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Si vous voulez nous soutenir, alors c'est une adresse, tipeee.com. Les mots-clés, c'est Capture Mag. Et puis, vous pouvez écouter nos podcasts sur les plateformes habituelles. Donc, il y a Podcast Addict, il y a Apple Podcast, il y a Google Podcast. podcasts, il y a Spotify, Deezer, tous ces trucs qui traînent sur ton iPad, Arnaud, et que à chaque fois tu te dis où est-ce que je vais écouter mon podcast, j'appuie sur ça, quoi. Et puis nous, on est sur les réseaux habituels, hein, Facebook, Twitter, Instagram. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un film qui a probablement rien à voir avec ce qu'on vient de parler.
Au revoir.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.